BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Oui, bah c'est sûr, bah ça y est, il n'y a plus d'essence. Hein. D'accord, c'est bon, mais moi j'ai trois bonnes nouvelles. C'est votre week-end, c'est votre argent et c'est une émission qui va être exceptionnelle. Exceptionnelle parce qu'on va parler de tous les thèmes qui ont marqué la semaine et surtout, bah, j'ai des invités qui sont engagés avant de venir à vous donner la prévision pour la semaine qui vient, les mois qui viennent, de tout ce qui va se passer en matière d'économie, de finance et de placement. Ils se sont mouillés, je les remercie. Au sommaire aujourd'hui, ça c'est nouveau là, on m'a dit de faire un sommaire. Au sommaire aujourd'hui, un mot, prévision, une question, est-ce que la France s'en tire mieux que les autres, un chiffre, les taux d'emprunt à 10 ans des États qui s'approchent de niveaux symboliques. En deuxième partie de l'émission, où vont les marchés? La question d'argent de la semaine, faut-il revenir vers les valeurs moyennes? Les mots de la semaine de nos Jedi de l'économie et de la finance, le top 3 des gérants et les actions à acheter ou vendre. Mais vous le savez maintenant, ça n'a pas changé. Pour une émission exceptionnelle, il faut bien évidemment des émissions, des invités exceptionnels. J'ai l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Il tient la barre d'une des plus belles sociétés de gestion indépendante de la place de Paris, un spécialiste des valeurs moyennes et des coups de gueule. Malgré sa mauvaise foi sur Angela Merkel, je continue à l'inviter parce que je l'aime bien. Sébastien Lalvé, vous êtes directeur général de la financière Arbevel. Vous avez vu que ce vendredi, elle a dit qu'elle ne regrettait rien et je suis comme elle, je ne regrette rien. Il s'est fait désirer, mais ça y est, hein. Il est là, on a eu plein de gens qui nous disent on adorait son costume, sa cravate, tout ça, pourquoi il vient plus, il est là. Il a même eu la gentillesse de venir, alors c'est vraiment sympa, merci encore, avec des jerrycans d'essence de Suisse. Patrice Gautry, vous êtes chef économiste de l'UBP, c'était vraiment sympa, on a apprécié votre geste.
Et je vous en prie, oui, avec du chocolat aussi.
Oui, bah évidemment, mais ça c'est à chaque fois. La pénurie d'essence ne le touche pas, il ne se déplace qu'à cheval du château de Versailles à ici. La hausse des prix de la baguette ne le touche pas non plus, car il a suivi les conseils de Marie-Antoinette et mange uniquement de la brioche. Louis de Montalembert, vous êtes le roi de la société de gestion Pléiade AM.
Vous êtes dépassé aujourd'hui, Marc. C'est remarquable. J'attends la prochaine fois.
Alors lui, il murmure à l'oreille des chefs d'entreprise et nous avons la chance de bénéficier de ses lumières et je dirais même parfois de ses fulgurances en matière d'économie. Denis Ferrand, vous êtes toujours directeur général de Rexecode.
Ça n'a pas changé. Tout à fait.
Et vous êtes toujours un homme heureux là-bas?
Ah oui, tout à fait.
Ils sont gentils avec vous?
Franchement, c'est passionnant.
C'est passionnant. Allez, on passe tout de suite au mot de la semaine parce qu'on a tellement de choses à se dire. Le mot de la semaine, c'est prévision. On n'est pas encore à la fin de l'année 2022, mais tout le monde a déjà envie de tourner la page de cette année noire, rouge, vif, et de se projeter sur 2023-2024. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Pour le FMI, c'est simple, ça va être quand même un peu la catastrophe. On parle d'une année, alors ce terme je l'emploie, mais il n'est pas très employé encore pour l'instant, une année blanche, en fait, 2023. On va tourner autour de zéro, plus ou moins en fonction des zones et des pays. La vraie question pour moi, c'est 2024. Pourquoi? Parce que 2024, ça devrait être l'année du new normal, c'est-à-dire l'année de l'économie post-Ukraine, si le conflit est résolu, post-sortie de Covid, post-hyperinflation. Prévision 2023-2024, bon, 2022, ça y est, on y est. Patrice Gautry.
Oui, 2023, alors l'anus horribilis, ça va être du quatrième trimestre de cette année au troisième trimestre 2023.
C'est là où d'accord, moi je croyais que c'était 2022.
Ah,
d'accord.
Non. Désolé, ça casse l'ambiance.
Oui, dès le début.
Oui, donc c'est là où effectivement les risques sont majeurs. Les prévisions du FMI nous pointent encore sur une activité qui serait entre 2,5 et 2,7 l'an prochain. Ça me paraît déjà être trop optimiste. On est plutôt aux alentours de 2 et 2.
Là, vous parlez mondial. Hein.
Au niveau mondial, tout à fait. C'est l'équivalent en fait d'une récession mondiale. Attendu dans les pays développés, un taux de croissance très faible, 0,4% en moyenne. C'est l'un des plus faibles depuis la décennie, je dirais. Alors que dans les pays émergents, avec l'Inde et la Chine, on devrait avoir un taux de croissance agrégé qui est aux alentours de 3,9%. Donc pas très très loin, en définitive, d'un niveau, eux, déjà, de reprise. Donc la difficulté, ce sont les pays développés, c'est l'Europe, c'est l'Allemagne. Et c'est là où, effectivement, je dirais, c'est pas simplement une récession. Donc 2023 s'annonce déjà comme une transition. Mais une transition vers quoi? 2024. Ah oui. Mais 2024, c'est pas 2019. C'est-à-dire, il suffit pas de baisser les taux ou de résoudre en fait des conflits ou des chocs extérieurs pour repartir sur un cycle qui serait le même. Non, le cycle va changer. C'est une mue en fait de l'économie mondiale à laquelle on est en train d'assister. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que derrière, il y a des changements qui sont profonds. On change de paradigme.
On change de paradigme. On l'a dit souvent, on l'a annoncé souvent. The Economist disait la semaine dernière dans What Next, un numéro spécial, en disant que c'est un choc qui est un changement de paradigme qui est aussi important que le keynésianisme post-deuxième guerre mondiale, voire la globalisation dans les années 2000. Oui. Vous dites la même chose?
on change de rythme, on change de peau en quelque sorte. Et les bases sur lesquelles en fait 2024, le rebond devrait se faire une fois qu'on a passé cette période annus horribilis entre guillemets, eh bien en fait c'est avec un commerce mondial qui lui se fait avec une compétition, une concurrence, une opposition entre blocs. Ça c'est nouveau. Okay. On a des taux d'intérêt réels positifs. Ça, c'est nouveau aussi, on ne l'avait pas connu depuis longtemps. Et puis, on a tout un tas de modifications au niveau microéconomique. Il y a, bien entendu, je dirais, l'accentuation ou l'accélération des transitions énergétiques, des problèmes de relocalisation, en fait, de l'industrie, des problèmes de sécurité dans les nouvelles technologies, sécurité des échanges, des problèmes de défense. L'Allemagne va dépenser dans les secteurs de défense. On a un système, on sortira de l'inflation très très forte avec des partages de revenus, des systèmes de prix relatifs qui sont complètement différents de ce que l'on avait et des nouveaux comportements, tant des entreprises que des consommateurs. Et avec une politique budgétaire qui ne sera plus la relance, mais en 2024, ce sera la consolidation financière.
Denis Ferrand, j'ai envie aussi de me projeter sur 2024, j'ai même envie de laisser tomber 2023 parce qu'on a eu les prévisions du FMI, bon on voit que ça va être un ralentissement, voire une récession dans certaines zones. Je voudrais m'intéresser à ce que dit Patrice, c'est-à-dire ce new normal. Ce monde post tout ce qui est en train de se passer, à quoi il va ressembler d'un point de vue économique? Est-ce que c'est vraiment un nouveau paradigme? Est-ce qu'on vit une révolution? Ou est-ce que finalement on se dit ça parce qu'on est confronté à une conjoncture qui est particulière et en fait on va revenir? Et c'est un peu ce que font les Japonais. Les Japonais parient sur le fait qu'on va revenir à la déflation, ils ne montent pas les taux d'intérêt parce que ça ne sert à rien. De toute façon, on va revenir à ce qu'on était en 2019 ou 2020. Denis.
Justement, je vais retenir notamment un point qu'évoquait Patrice, qui est l'idée du commerce mondial. Parce que s'il y a un changement, en fait, dans le new normal qui est évoqué par The Economist, c'est un peu ce qui se dessine au total, on voit bien ce qui disparaît, on ne voit pas forcément très bien ce qui est en train de se mettre en place. Sinon, sur l'aspect du commerce mondial, ce qui est très spectaculaire, me semble-t-il, c'est le fait qu'on ait cette formation de blocs. Qui se met en place et que l'on ait un commerce mondial qui est moins dense entre blocs, mais peut-être plus important à l'intérieur des blocs. Et ça, c'est un phénomène qui va être assez
large. Mais ça a l'impact sur l'économie mondiale. Alors, on peut comprendre qu'un peu l'impact sur les échanges soit important entre blocs, oui. Mais l'impact global sur la croissance mondiale. Ben,
en tout cas, c'est un impact premier qui est que vous n'avez plus le bénéfice qui était associé à l'approfondissement de la mondialisation, qui a été la baisse des prix. L'effet désinflationniste très fort associé au commerce mondial a été le principal vecteur de la désinflation, en tout cas de la faible inflation que l'on a eue pendant
des
un des vecteurs avec
la démographie.
Il y avait aussi le développement aussi de grandes unités dans le commerce de détail aussi qui ont joué. Ouais. Dans un sens pour tirer les prix vers le bas. Mais désormais, cette constitution de blocs régionaux n'apportera plus la force des inflationnistes qui était associée jusqu'à présent à la mondialisation. Donc ça va vous
changer.
Donc
vous dites quoi ? Vous dites 2024, ça va être un monde à croissance, peut-être qui reviendra, d'après ce que vous dites un peu, Patrice Gautry, à des niveaux des croissances structurelles dont on parle régulièrement, mais avec une inflation qui va changer, qui va rester un peu plus élevée. On s'habitue à une inflation de 2,5, 3, 4%.
Oui, tout à fait, avec une hétérogénéité dans les rythmes de croissance entre les blocs qui sera peut-être encore plus accusée que cela n'était le cas jusqu'à présent. Mais sur l'inflation, en revanche, et c'est là où il y a des choses qui sont très importantes, et 2023 va être une année de tests très importants, c'est qu'on voit bien qu'au cours de cette année 2022, parce qu'en fait c'est pas 2023 qui est une année blanche, mais c'est 2022 et 2023 qui sont des années blanches. Mais au cours de l'année 2022, ce qui a été l'explosif qui a fait réapparaître l'inflation, c'est-à-dire les plans de relance extrêmement soutenus, le soutien de la politique monétaire, la mobilité dans l'emploi qui s'est fortement accélérée, tous ces éléments-là, on voit qu'ils sont en train de revenir en arrière. Donc on est en train d'évacuer ce qui a été l'explosif à même de faire redémarrer l'inflation, et on va s'installer progressivement sur une inflation qui sera beaucoup plus déterminée par des éléments structurels. Il y a le commerce mondial, il y a aussi la transition énergétique qui est un facteur inflationniste plus important, et donc on va trouver un nouveau normal qui ne sera plus le moins de 2 que l'on a connu pendant très longtemps, qui sera pas non plus le 10 que l'on connaît actuellement, et qui va se situer quelque part entre 2 et 5 probablement.
Ce qui est important, et ça c'est un point un peu de conclusion, et quelque part une une morale à la fable que l'on connaît actuellement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas parier sur une baisse de 25 points de base de la Fed pour relancer le cycle. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en fait, il faut que ces changements structurels se mettent progressivement en place. Quand ? Ça, c'est difficile à dire. Avec quelle force ? C'est aussi difficile à dire. Ce que peuvent faire les politiques économiques, c'est accompagner ce changement. Donc, parier sur le fait que la Fed baisse les taux, on repart et il faut racheter des actions, ce ne sera certainement pas un pari gagnant et ce n'est pas suffisant pour 2024.
Avant de passer la parole au gérant, point de détail, pourquoi vous dites 2022 année blanche ? Parce que la croissance économique est relativement forte dans plein de pays encore. C'est en train de ralentir au quatrième trimestre et on va avoir un ralentissement fort au quatrième trimestre. Mais les chiffres, si on regarde les chiffres de l'année, ils sont pas mal.
Oui, mais la croissance a été faite en 2021. Et en fait, c'est la croissance qu'on a embarquée avec la fin d'année 2021 qui fait la moyenne annuelle en 2022. Et sur la Chine, d'ailleurs, la prévision du FMI était très intéressante quand on se reporte un an en arrière. Il y a un an, le FMI disait 5,5 de croissance pour la Chine. En fait, elle va à peine faire
3,3. Louis, Sébastien, est-ce que j'ai raison de me projeter en 2024, vous qui êtes gérant, est-ce que vous essayez de déterminer à quoi va ressembler le monde, ce monde post toutes les crises en termes de taux d'intérêt, parce que c'est quand même déterminant pour vous en termes de croissance et en termes de paradigme, Louis ?
Alors, moi je dirais déjà que si 2022 est année noire, 2023 année blanche, ce sera un super scénario pour les marchés, puisque finalement les marchés en 2022, ils sont dans l'anticipation, anticipent quelque chose qui est assez calamiteux pour 2023. Maintenant, moi là où je continue à avoir un doute sur les taux d'intérêt, c'est très difficile pour nous de nous positionner sur le niveau des taux d'intérêt.
Mais vous êtes obligé ?
Oui, mais de manière... Oui et non. Mais je le reconnais ici, j'ai toujours dit que je pensais que les banques centrales n'auraient pas les moyens d'augmenter les taux d'intérêt pour la simple raison que le monde n'a jamais été aussi endetté à 400% du PIB mondial. Et moi, ce qui m'inquiète fondamentalement sur cette situation, c'est que ça veut dire que pendant 10 ans, on a eu des taux historiquement bas. Ça veut dire des gens qui ont emprunté à 1 ou 2% pour faire des investissements à 4 ou 5%. Et donc, ce que je ne comprends toujours pas, à moins que la Banque centrale dise qu'elle va augmenter jusqu'à 4,60 ses taux, mais qu'en fait, elle ne le fasse pas, c'est que je ne vois pas comment est-ce qu'ils vont pouvoir le faire. C'est-à-dire, comment est-ce qu'avec un tel volant de dette... Ouais. Avec une mauvaise allocation du capital, on sait bien que l'argent gratuit conduit à une mauvaise allocation du capital. Je ne vois pas comment ce que monter les taux de manière aussi brutale.
C'est ce que font les Américains, ils vont le faire, ils vont monter à 4,5. Non,
mais je ne suis pas sûr.
C'est à qui 4,5, c'est à qui? On est à 3,20, 3,50.
Non, je vais vous dire pourquoi je ne suis pas sûr, parce que je ne comprends pas une équation que peut-être les économistes vont nous expliquer. Mais comment ce que l'on fait quand pendant 10 ans, on a accumulé 400% de dette sur PIB sur des actifs à faible rendement. Je vois pas comment est-ce qu'il n'y a pas des marchés immobiliers qui vont exploser. Comment est-ce qu'il n'y a pas un risque systémique fondamental à monter les taux autant?
Avant que je passe la parole à Sébastien, vous voulez répondre très rapidement.
Le mistigri de la dette, c'est-à-dire où est la dette? C'est comme un jeu de bonneteau. Ouais. Et en fait, la dette se déplace. Elle était auparavant, 2007-2008, sur les ménages et sur les entreprises. Elle est passée maintenant au niveau des États. Les ménages ont un excédent d'épargne en termes agrégés, les entreprises ont de la dette balancée par du cash. Donc le problème, effectivement, c'est comment on va passer 2023-2024 avec des hausses de taux sur la dette publique, les déficits publics. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la nécessité en 2024 d'une consolidation fiscale.
Sébastien, est-ce que vous vous projetez dans ce new normal, ce nouveau normal de l'année 2024 ou après pour vos décisions d'investissement ?
Il y a plusieurs points. Le point sur le fait qu'on rentre dans un monde avec plus d'inflation du fait de la transition énergétique et du fait d'autres éléments, notamment de la démographie, parce que dans le chômage tel qu'on doit l'analyser, il y a un aspect démographique important.
C'est un gros débat qu'on a avec Emmanuel Le Chip. Moi, je pense que la démographie est extrêmement déflationniste, mais on ne va pas rentrer là-dedans, les idées.
Parce qu'aujourd'hui, on est obligé de rentrer là-dedans, parce que le marché, en fait, il est...
Illustration.
Marché est monomaniaque. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va suivre un agrégat qui est le chômage. Et il part du principe que tant que le chômage ne baisse pas, les taux doivent continuer à augmenter.
Aux États-Unis, principalement.
Aux États-Unis. Et l'impact de la démographie donc doit rentrer en considération. Donc c'est complexe. Alors après, en tant que gérant, on fait quoi ? Déjà, il faut avoir en tête que boursièrement, quand vous excluez les plus fortes journées de bourse, de hausse en bourse, votre performance à long terme est complètement différente. C'est-à-dire, je joue au market timing pour rentrer, c'est-à-dire c'est le risque de rater des journées exceptionnelles qui en fait font la perf à long terme.
D'accord.
Typiquement, le jour du vaccin, vous étiez dehors parce que vous avez peur du Covid. En octobre 2020, le marché a fait 7% en 12 minutes. entre midi et deux, c'était pas très sympa pour ceux qui partaient déjeuner, donc pour les Français. Donc ça veut dire que vous aviez pas le temps de vous positionner en fait. Donc c'est un élément important. Après, ce qu'a dit Louis est fondamental. Le marché, c'est un jeu d'anticipation permanent. C'est-à-dire que si 2022 on anticipe la cata et que 2023 s'avère être la cata anticipée, il n'y a pas de, le marginal n'est pas négatif et non, le marché a toujours, toujours 6 à 8 mois d'avance sur les faits. Donc on doit anticiper, et je termine là-dessus, fondamentalement les thématiques sur lesquelles nous on aime bien investir sont aussi fortes aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a un an ou deux ans, si ce n'est plus, sauf qu'on retrouve des boîtes 70% moins chères qu'on les avait il y a deux ans.
D'accord, donc vous êtes déjà positionné sur le monde d'après. Allez, on passe à la deuxième question, enfin à la question de la semaine. La question de la semaine, on veut une réponse maintenant et pas plus tard. Tu comprendras plus tard. Parce que la chanson s'appelle plus tard, c'est pour ça que j'en ai fait cette phrase d'introduction. Bon, je le fais à chaque fois. Est-ce que la France s'en sort mieux économiquement que ses voisins? Alors, on voit un peu pavaner tout le monde, et même ce vendredi matin, j'étais sur le plateau, on discutait avec Christophe Jacubini, et il me dit, c'est fabuleux, la France, l'inflation, la croissance. Bon, moi, je suis évidemment pas d'accord. Hein. Patrice, vous qui avez un regard un peu extérieur à la France.
Alors, si on...
On regarde les chiffres d'inflation.
Un regard vrai, extérieur voilà. Et un regard long.
Oui.
C'est-à-dire que l'économie française avait traditionnellement un problème où elle amortissait les crises dans un premier temps, du fait de sa composante service et du fait, je dirais, de ce qu'on appelle les soutiens automatiques avec le chômage, les aides à l'emploi, etc. Mais par contre, elle avait un retard à l'allumage lorsque l'économie mondiale repartait.
Ouais.
Là, il y a un peu plus de flexibilité qui est apparue à peu près depuis les années, je mettrais 2010, mais là, je vous laisse me contredire ou du moins préciser le chiffre. C'est-à-dire qu'il y a plus de flexibilisation en fait de l'économie, à la fois du côté de l'offre, il y a eu des politiques d'offre, mais aussi il y a des comportements nouveaux qui sont apparus, il y a une certaine américanisation de la part des consommateurs dans l'utilisation du crédit. Donc maintenant on a une économie française qui est peut-être plus en phase avec la moyenne de l'OCDE, ce qui veut dire que, et aujourd'hui dans cette crise, c'est l'Allemagne qui pose problème, c'est l'Allemagne qui risque de faire un moins 1 ou un moins 2%, alors que l'économie française fera peut-être 0,01, et où il faudrait vraiment un gros mais rationnement pour tomber à des chiffres
négatifs. Patrice Beury, c'est 0,1% à crédit. C'est comme l'argument qui est donné de dire on fait de l'inflation, l'Allemagne fait 10% d'inflation, nous on fait 5,6. Oui, bah, on peut faire 0% d'inflation aussi, en donnant encore plus de chèques, encore plus de boucliers tarifaires. C'est-à-dire qu'on fait ça au détriment de notre déficit et de notre dette.
C'est pas comme si l'Allemagne ne le faisait pas. Hein.
Mais ils le font, ils ont les moyens de le faire.
Ouais.
Non, mais attends, Louis, je suis tout à fait d'accord avec vous. La seule différence, c'est qu'ils parlent d'une dette de 65% du PIB et que nous, on parle d'une dette qui est à 115 ou 120% du PIB. Denis, ouais, est-ce qu'on s'en tire mieux que les autres? Moi, je serais très content de l'entendre, j'y crois pas, mais...
Oui, on s'en tire mieux que les autres pour des raisons un peu différentes, effectivement, de ce que c'était le cas, parce que c'est toujours comme ça. On amortit toujours beaucoup plus les chocs, surtout quand ces chocs, en plus, viennent de l'étranger. L'Allemagne a quand même perdu deux de ses principaux marchés d'exportation. Entre la Russie et la Chine, qui est complètement plantée, ça fait quand même du mal à l'Allemagne. Et puis, ajouter aussi à cela une circonstance qui est très particulière, qui tient à l'origine gazière aussi des difficultés.
Bien sûr.
Quand on regarde l'intensité en gaz de l'économie en France, elle est 50% inférieure à ce que au cas
grâce
de l'Allemagne.
Au nucléaire.
Donc, vous avez des circonstances qui vous sont... pour le coup particulière, mais c'est des circonstances de croissance. Maintenant, enfin, des circonstances plutôt qui expliquent le ralentissement. C'est pas du fondamental de l'économie française. Maintenant, il faut regarder la capacité à rebondir que l'on va avoir. Et effectivement, notre capacité à rebondir, on va se retrouver avec un déficit public qui aura quand même pas tout à fait la même allure parce que on a quand même brûlé beaucoup de cash. Et les Allemands, de toute façon, vont en brûler maintenant. Et je suis pas d'accord avec vous. Il y a bien cette possibilité mobiliser des fonds de manière.
Ils le font à partir d'une base qui est saine.
Oui, tout à fait. Voilà. Ils le font sur une base qui existe, enfin sur une base qui est saine du point de vue économique, du point de vue énergétique, on peut en rediscuter.
Non, je parle du point de vue économique. Ils ont les moyens aujourd'hui et de financer la transition écologique, énergétique, et de financer les plans de relance.
Tout à fait.
Mon seul point.
Tout à fait. Mais le pari, en revanche, qui est fait sur la sortie en France, c'est le fait que d'avoir eu moins d'inflation nous fera moins d'augmentation de salaire dans les autres pays européens et on va se redonner un petit volant de compétitivité ce faisant.
C'est pas ce qu'on voit.
Ça m'apparaît quand même un pari assez hasardeux. Et surtout qui se fait au prix d'un creusement du déficit public qui est tout à fait spectaculaire en regard de ce que font les autres Européens.
Louis, vous voulez rajouter quelque chose? Je vous vois votre sourire narquois parce que vous pensez que l'Allemagne. Vous êtes, cette obsession de l'Allemagne me fascine. C'est incroyable. Ils vont faire -1% et je vois sur tous les plateaux les gens se déchaîner. Ça me rappelle quand je passais de 19 à 18 en classe et que le dernier de la classe rigolait.
Donc votre idole qui a été chancelier pendant 16 ans. Imaginez une boîte où cette boîte est monosource énergétique.
Ce qu'il faut. Ah non, attendez, déjà, j'ai bossé mon sujet.
Faut regarder. Car,
parce qu'il y a tellement de gens qui me répètent la même chose. Déjà, est-ce que vous connaissez le pourcentage d'énergie renouvelable en Allemagne?
Mais à quelle heure?
On est à 49%.
Non,
49% d'énergie renouvelable.
Il y a plein de moments où l'éolien, c'est zéro parce qu'il n'y a pas de vent. Le solaire.
Vous allez prendre deux mois où il n'y avait pas de vent.
Non, c'est pas le mois, c'est aujourd'hui. Il y a une nappe d'énergie. Non, donc, monosource d'énergie.
Monosource d'énergie, 50% d'énergie renouvelable. Déjà, c'est faux.
Non, mais qui marche pas tout le temps. C'est hyper ça. Concentré sur une classe sur l'industrie et avec un client principal qui est la Chine, qui est en train de changer structurellement.
Vision totalement réductrice et caricaturale.
Non, mais vous l'achèteriez pas si c'était une boîte cotée.
Je pense que si. Parce que les finances sont saines et que la boîte est bien gérée. On passe au chiffre de la semaine. Le chiffre de la semaine, c'est 10 ans. Les emprunts d'État à 10 ans frôlés ou passés des caps symboliques avant de rechuter. C'était assez fou ce qui s'est passé la journée de jeudi. On va en parler plus sur les marchés actions avec les gérants. On a frôlé, voire dépassé les 4% sur 10 ans. C'est un peu le taux de référence d'emprunt d'État. 3% pour la France, 5% en pas loin pour l'Italie et la Grande-Bretagne. Totalement dingue, quoi. Ça, c'est un game changer complet, quoi.
Oui, ça fait partie des changements de paradigme. Là, on revient avec des taux de 2010 et peut-être même un petit peu un peu avant. Et là, ça traduit effectivement l'environnement sur l'inflation. L'inflation n'a pas complètement fait son pic. Les banques centrales vont continuer à monter les taux.
L'inflation n'a pas complètement fait son pic. C'est important, ça.
Oui. Donc aux États-Unis, enfin on l'a vu avec les chiffres d'inflation sur les prix cœur, c'est-à-dire aujourd'hui on peut avoir effectivement une forte volatilité qui nous est plus favorable avec des effets de base qui nous seront favorables courant 2003 sur les prix de l'énergie. Par contre, les prix des services, l'immobilier, les services médicaux et le coût de transport restent des facteurs qui sont hors de contrôle aux États-Unis.
D'accord. Donc on n'a pas vu le pic.
On n'a pas vu le pic sur le prix cœur.
Ni aux États-Unis ni en Europe.
Pas sur le prix cœur aux États-Unis.
L'immobilier s'est retardé comme indicateur immobilier. Est en train de fortement baisser. C'est juste que les lois, il y a un retard, en fait. Il y a un effet.
Mais on n'a pas vu.
Alors, il y a un effet, de vase. C'est-à-dire, en fait, il faudra, en fait, avoir une forte baisse des prix de l'immobilier en achat, en maison, et on a un report sur les loyers, et c'est après où on a effectivement la baisse des prix des loyers. Donc là, malheureusement, on est dans ces dynamiques. L'Europe n'a pas encore fait son pic, malheureusement, même si on a les mesures qui sont sorties.
Pourtant, en France, on est sorti avec un taux de 5,6% par rapport à 5,9%.
Oui, mais l'Europe, la zone euro, globalement, regardez l'Allemagne, on est à 10, et l'Espagne vient juste de passer en dessous de 10. Donc globalement, la zone euro n'a pas encore fait son pic. Donc ça veut dire que la dérive sur les taux longs, elle existe encore. On peut avoir 4,25, 4,50. Ce qui est intéressant, c'est sur du moyen terme, on va avoir effectivement à saisir en termes d'opportunités d'investissement pour des fonds obligataires, des taux relativement élevés, avec un rebascule vers des taux d'intérêt réels positifs courant 2023. Et ça, c'est plutôt
c'est
des opportunités.
On disait juste en off avant l'émission, on disait c'est quand même incroyable de voir une nouvelle classe d'actifs, enfin une ancienne classe d'actifs qui est le marché obligataire et les emprunts revenir un peu comme alternative mesurée, pondérée au marché action, mais alternative quand même. On n'est plus dans le monde de there is no alternative. Denis Ferrand.
Oui, sur l'inflation, effectivement, sur l'Europe, on n'est pas encore au pic, ne serait-ce que pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises qui fonctionnent, prenons les entreprises industrielles, qui fonctionnent avec de l'électricité, qu'ils ont acheté sur des contrats négociés en 2021. Les contrats de 2023, négociés sur des prix de 2022, ils vont avoir une autre allure. Et donc, il va falloir bien, à un moment ou à un autre, répercuter ces hausses de prix. Donc, effectivement, pour les circonstances énergétiques, et c'est là que l'on va trouver un handicap à la France par rapport à la question de tout à l'heure, on va trouver un handicap parce que, pour le coup, le prix de l'énergie, il va mordre beaucoup plus fortement en 2023, alors que en 2022, c'était beaucoup plus une histoire gazière. Et sur les taux, je trouve que c'était très intéressant cette semaine parce qu'on vient de passer le moment où l'effet positif du roulement de la dette est terminé. Le roulement de la dette, c'est-à-dire que on pensait qu'on allait encore avoir une forme d'inertie, à savoir qu'on remplaçait de la dette ancienne qui a été émise à un taux, mettons, de 4% il y a 10 ans, on la remplaçait par une dette qui était à un niveau plus bas. Mais en fait, quand vous prenez la structure moyenne de la dette qui va venir à échéance d'ici la fin 2023, eh bien, si on devait la remplacer aujourd'hui au taux qui se pratiquait, alors jeudi, c'est vrai, il y a eu des allers-retours, mais si on devait la remplacer jeudi, ben, on aurait un taux plus élevé que la dette qui est échue. Donc, ce délai de grâce, encore un peu un délai de grâce, monsieur le bourreau, qui avait dit un roi, je crois, assez célèbre, donc ce délai de grâce, maintenant, il est terminé et on entre dans le moment dur où, eh bien, la charge de la dette va monter.
Et la seule façon, en fait, de passer cette contrainte, c'est de mettre l'accent sur la croissance potentielle. Il faut revivifier la croissance potentielle.
Allez, on se retrouve en deuxième partie de l'émission. Où vont les marchés? La question d'argent, faut-il revenir vers les valeurs moyennes? Les mots de la semaine de nos Jedi, le top 3 des gérants et les actions à acheter ou à vendre. BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino. Et on se retrouve en deuxième partie de l'émission après une première partie plutôt chaude mais très passionnante. On va parler donc des marchés, on va parler des actions, on va parler de tout ça avec notre ami Denis Ferrand qui reste modéré mais relativement optimiste quand même. Hein. C'est pas le noir complet, non ?
Non.
Mais c'est un noir clair.
C'est le noir clair, voilà.
Louis qui piétine là, depuis tout à l'heure.
J'ai l'impression d'être Annie Pujol hein, depuis le début. D'être Annie Pujol depuis le début.
Ah oui ? Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas assez parlé ?
Je parle pas, ouais. Oui.
Non mais la première partie, c'est une partie à haute valeur ajoutée intellectuelle.
Juste
donc c'est
Pujol.
Les économistes, c'est pas les gérants. D'accord. Et là maintenant on parle d'argent, c'est votre partie.
Je voulais juste parler d'Annie Pujol, c'est tout. Pas besoin de m'expliquer.
Patrice Gautry qui nous dit qu'il faut se projeter donc 2024, 2025 sur le nouveau normal. Et Sébastien Lalbé, je lui ai tendu une perche pour Angela Merkel. Évidemment, il l'a saisie, mais c'est de bonne guerre. Allez, on passe tout de suite au marché. On est à peu près à moins 18% sur le CAC, moins 22 sur le DAX, moins 23 sur le S&P 500. Le Nasdaq moins 31, l'Eurostock, ça fait mal à la tête quand même, hein. Moins 22, le Nikkei moins 9, Shanghai moins 17, le FTSE moins 7%. Alors, phénomène intéressant cette semaine quand même, hein, ce phénomène assez intéressant. Jeudi, très exactement, publication de l'indice des prix aux États-Unis, donc d'indication d'inflation, il était plus mauvais qu'attendu. On a eu une plongée immédiate des marchés de 2 à 3%. Et puis, quelques heures après, on a finalement clôturé en hausse de 2 à 3%. Alors là, je me retourne vers les gérants. Est-ce anecdotique ou le premier signe de capitulation et de retournement du marché, Louis de Montalembert?
Je ne sais pas si on peut qualifier cette journée qui était effectivement très étrange comme étant un signe de capitulation parce que en réalité ce qui s'est passé c'est les marchés ont plongé sur la mauvaise nouvelle et derrière c'est essentiellement du rachat de short ETF, autrement dit c'était des positions à découvert principalement qui ont fait la remontée. Je rachète ma position à découvert et je remonte. C'est-à-dire qu'on a eu assez peu de bonnes performances sur ce qu'on appelle du single stock, sur des actions. Et d'ailleurs, on a bien vu que les boîtes d'hypercroissance n'ont quasiment pas bougé. Elles n'ont pas baissé massivement. Mais si vous voulez, c'est avec un Nasdaq à plus 2, normalement, le bêta sur les boîtes d'hypercroissance, elles auraient dû faire plus 5, plus 6.
La personne comprend.
Et là, non, mais autrement dit elles réagissent encore plus que le marché. Et là, en l'espèce, elles n'ont quasiment pas bougé, elles sont restées à zéro dans un Nasdaq à plus 2. Donc on voit bien que ça s'est joué sur les grands indices. Donc on ne peut pas parler véritablement de capitulation. Mais néanmoins, je pense que les nouvelles de l'inflation, elles étaient probablement décevantes, mais elles n'induisaient pas ce qu'on appellerait un new normal. C'est-à-dire que le marché s'adapte par étapes en fonction de sa compréhension, de ses anticipations de l'avenir. Ce que nous a dit l'inflation, c'est on est sur... En gros, on est quand même sur un plateau haut. Ça monte légèrement sur le corps, mais sur l'ensemble, on est sur un plateau.
Le corps, juste on précise, oui, c'est or, énergie, or alimentaire, parce qu'on considère que ces deux composantes sont très volatiles.
Donc, ce qu'a dit le marché, en gros, il a dit c'est business as usual, quoi. Il a dit il y a ni bonne nouvelle ni mauvaise nouvelle, et par conséquent, dans la mesure où les marchés corrigent les excès par les excès, et que moi j'ai tendance à penser pour le coup qu'il y a des poches du marché qui sont totalement sous-valorisées, on voit un mini réajustement, mais c'est une journée.
J'ai entendu ce que vous disiez tout à l'heure, le seul truc intéressant que vous avez dit en première partie, vous avez dit en fait, le marché anticipe vraiment des événements très négatifs pour 2023, s'il n'était que mauvais. Ça veut dire que le marché pourrait rebondir. C'est ce que vous avez dit ou j'ai mal compris?
Oui, et c'est un peu le sens de ce que je dis ici. C'est-à-dire qu'on est à des niveaux de marché aujourd'hui qui est celui...
Qui anticipe le pire, vous pensez?
Non,
le, enfin, alors, non, pas le pire, je parle pas
non,
de
l'Ukraine et autres. Non, le pire n'est pas certain. Personne... Je reparle de ma crainte sur la dette. Le risque systémique, pour moi, il existe. En tout cas, il n'est pas anticipé par les marchés. Il est peut-être minoritaire. Hein. Aujourd'hui, le marché anticipe ce que les économistes ont dit plus ou moins sur une année 2023. Assez pourri économiquement, mais il faut toujours se souvenir...
De transition.
Non, mais rappelez-vous, rappelez-vous en 2020, c'était épouvantable économiquement, très bon pour les marchés. En fait, il n'y a pas de corrélation puisqu'il y a anticipation. Donc, année de transition, bon, année pourrie quand même, il faut être réaliste.
Bah, pourri économiquement, non. Oui. Je veux dire, une croissance à zéro.
Croissance
avec tous les chocs qu'on se prend quand même,
non, mais vous pouvez
se
dire.
Retrouver avec, dans les pays développés avec 0% de croissance plus ou moins, on a vu pire quand même.
Je suis d'accord, mais 2% de croissance mondiale, comme le disait Patrice... Ouais. C'est parmi les plus.
Oui, mais parce que on va pas rentrer là-dedans, mais il y a quand même là aussi un monde d'après. La Chine n'est plus la Chine des 10%, des
10%, des 5%. Il y a l'Inde, mais il y a un problème avec la Chine.
Il y a un élément intéressant, c'est qu'en fait, dans le chiffre d'inflation, très très vite, et justement, c'est qu'en fait, ça peut donner aussi le sentiment pour les acteurs de marché que. L'accélération de l'inflation et le fait qu'elle ne baisse pas va obliger la Fed à accélérer sur les hausses de taux. En accélérant sur les hausses de taux dès la fin d'année, on libère en fait un espace pour 2023.
Oui, c'est frappé plus fort et plus.
Exactement. Et donc en fait, on se redonne un peu de marge de manœuvre pour 2023.
Sébastien, cette journée de jeudi, non, c'est une journée business as usual, c'est-à-dire moins 2 ou moins 3 et plus 3, ça, vous vous êtes dit, tiens, il se passe un truc, vous vous êtes dit, non, ce que vous nous répétez tout le temps ici d'ailleurs, c'est les algorithmes, et c'est ce qu'a dit Louis, c'est pas vraiment des gérants qui ont fait ça.
Non. Bon, l'inflation core était 0,1% au-dessus des attentes. Donc en ça, c'était une mauvaise nouvelle. Bon, 0,1%, en plus, c'est des chiffres qui peuvent être corrigés, enfin, c'est comme l'emploi, enfin. Donc effectivement, on est passé sur le marché de plus 1,5 à moins 1,5 instantanément. Donc c'est les algos, uniquement les algos, c'est pas les longues
bonnes. On est descendu à moins 2, moins 3 sur certains marchés.
Mais bien sûr,
on a clôturé.
C'est que du momentum, c'est que des gaps qui accélèrent la baisse. On a
Pour les gens qui nous écoutent, parce que ça veut dire ce que vous dites, vous nous le dites régulièrement, mais réexpliquez quand même, parce que c'est pas évident.
Ça veut dire que le taux de détention d'une action moyenne dans le monde est inférieur à 30 secondes. Et que au global, et que les flux d'acheteurs aujourd'hui sont essentiellement des algorithmes dont le sujet principal est d'être le plus près possible des data centers pour avoir d'arriver plus vite que les autres auprès des opérateurs de marché. Donc les stratégies sont assez dites momentum, c'est-à-dire qu'on achète ce qui monte et on vend ce qui baisse.
Donc ça amplifie les mouvements.
Ça amplifie les mouvements. C'est pour ça que 2021 a mis plus de temps que ça aurait dû à corriger, c'est qu'il y a encore eu du momentum positif. Donc en clair, pour moi, en tant que gérant, entre guillemets, fondamental, la variation au quotidien, je l'observe avec intérêt, mais je ne lui accorde pas plus de valeur que ça.
D'accord.
C'est-à-dire que ce qui est assez étonnant, c'est que par rapport à il y a une dizaine d'années, les causes n'ont plus tout les mêmes conséquences. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus amplifié aujourd'hui que ça ne l'était avant. Et une fois encore, là aussi, le marché monomaniaque, c'est l'emploi. C'est l'inflation.
L'inflation surtout.
Oui, mais...
Vous avez raison, l'emploi comme facteur, driver de l'inflation, mais l'inflation principalement. Question simple, alors j'entends ce que dit Louis, vous aussi vous pensez que finalement vous ne raisonnez pas marché dans son ensemble, mais vous dites qu'il y a des compartiments, il y a des valeurs qui sont aujourd'hui
des valorisations absurdes. Il y a des corrélations entre les différents actifs qui est quasiment parfaite. Ce qui prouve bien que les flux sont vraiment... globaux, cross-actifs, qu'on va acheter les equities américaines en vendant de la dette émergente. C'est ça. Et par contre, ce qu'on constate, c'est qu'en réalité, c'est qu'en dehors de ces gens-là, il y a assez peu de liquidités. Quand vous descendez...
L'investisseur réel, c'est-à-dire le type qui dit, tiens, j'ai envie de rentrer en bourse.
La réglementation a tout fait pour enlever les investisseurs fondamentaux tels que les assureurs et ainsi de suite. Donc voilà, donc, la bourse au jour le jour... Des fois, il ne faut pas lui accorder plus d'importance que ça. Après, on est toujours dans l'anticipation. Le plateau, on ne sait pas où est-ce qu'il est, mais ce que j'ai compris, c'est que si un objectif, au final, à 4,5, quand tu es déjà pas loin de 4, c'était
sur les taux d'intérêt, vous
t'es plus proche que quand tu étais à 1 ou 0.
Ouais.
Donc une partie du chemin a été fait. Et puis dans les chiffres qu'on observe, il y a beaucoup qui sont des indicateurs retardés aussi. Donc je pense que le travail qui a commencé est important. Après, il y a une différence fondamentale entre les US et l'Europe, où on est très derrière, on est en retard en Europe. Et il y a beaucoup d'autres, c'est beaucoup plus compliqué en Europe que ça ne l'est aux États-Unis très clairement.
Une différence très rapidement.
Oui, ce qui m'a surpris, c'est que le marché a réagi effectivement à l'inflation core. effectivement un petit peu plus élevé que d'habitude. Or, l'inflation core est un indicateur qui est fondamentalement retardé. Parce qu'en fait, elle évolue en fonction de hausses de coûts que l'on a eues en amont, donc notamment des hausses de prix de matières premières, mais également en fonction de l'équilibre sur le marché du
travail. C'est pas pour ça qu'il aurait rebondi après, c'est-à-dire après, comme les gérants sont un peu lents, ils ont d'abord, ils réagissent en paniquant et après ils réfléchissent.
Évidemment, il y a eu une sorte de myopie initiale. Mais justement, mais dans ce cas, il faut aller interroger.
Myopie initiale. Oh là là, j'aurais pas aimé ça. Qu'est-ce que vous prenez?
Louis a évoqué que c'était les fonds ETF, c'était pas les gens.
Mais rappelez-vous,
Trump
président avait une fois tweeté quelque chose de négatif sur Apple. Apple, dans la nanoseconde qui a suivi, baissait de 3 ou 4%. Apple, à l'époque, première capitalisation du monde. Donc pour faire baisser Apple 3 ou 4%, il faut y aller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plein de flux algorithmiques qui étaient directement reliés au fil tweet de Trump et qui ont agi en conséquence. C'est ça le marché en 2022.
Simplement pour terminer, justement, parmi les déterminants fondamentaux de l'inflation sous-jacente, les prix des matières premières ont reflué. Et quand vous regardez l'équilibre offre-demande de travail sur le marché américain, eh bien, les courbes sont en train de se croiser. Pendant très longtemps, la demande de travail, donc l'emploi plus les jobs à pourvoir, progressait beaucoup plus vite que la population active. Eh bien, ces deux courbes sont en train de se croiser.
C'est l'intérêt de cette année blanche ou de cette année de transition. C'est d'essayer de faire disparaître les goulets d'étranglement.
Tout à fait.
Et on est en train d'y arriver.
Et les goulets d'étranglement ont déjà reculé quand même très sensiblement.
On le voit dans le transport, le coût du transport.
Ah oui. Et les délais de livraison des fournisseurs sont revenus à la normale désormais.
Les seules craintes qu'on peut avoir, je me retourne vers vous, Louis, c'est quand même sur la solidité des entreprises. C'est-à-dire, on voit que parce que on a soutenu de façon totalement artificielle des entreprises qui auraient dû tomber, donc celles-là, elles vont tomber. Et puis il y a celles qui doivent tomber normalement, et puis il y a celles qui doivent tomber parce qu'il y a des conditions qui sont extrêmement rudes. Vous parliez, Denis, hors antenne, de l'explosion de la facture d'électricité pour des entreprises.
Oui, je pense que ponctuellement, à certains endroits de l'économie, certaines poches, on peut s'inquiéter. Néanmoins, et là je suis d'accord avec Patrice, depuis la crise du Covid, en fait les entreprises se sont beaucoup adaptées et nous on constate qu'on a beaucoup d'entreprises avec des bilans sains. Alors vous me direz, je regarde probablement pas les entreprises qui n'ont pas des bilans sains et malgré tout les 370% de PIB d'endettement, ils sont quelque part. Moi c'est ça qui me fait peur, c'est où est-ce qu'ils sont et le risque systémique éventuel.
Allez, justement, vous faites la transition avec la question d'argent de la semaine. Là, je m'adresse uniquement à nos gérants. Est-ce qu'il faut retourner vers les valeurs moyennes? Elles ont été totalement massacrées, avec un CAC qui est en baisse de 20 et quelques pourcents. Le Mid Small est en baisse de 24. Le CAC Small est en baisse de 26%. L'indice Euronext Gros est en baisse de 33%. Sébastien Lalvé, il faut y revenir aux valeurs moyennes?
C'est une question d'horizon. Fondamentalement, si vous n'avez pas besoin de l'argent demain, après-demain ou dans 3 mois, la réponse est évidemment oui, c'est les soldes. Alors après, il faut vraiment... C'est pas les soldes, c'est pas on achète n'importe quoi parce que ça va remonter. Il faut être sélectif sur la qualité du bilan, il faut être sélectif sur le management, il faut être sélectif sur l'industrie sur laquelle on s'expose. Mais quand vous faites ce travail-là, évidemment, parce que toutes les thèse de croissance qu'on peut avoir sur pas mal de sociétés, elles sont extraordinairement renforcées par ce qu'on vit en réalité.
Oui, parce que et le Covid et l'Ukraine créent des accélérations incroyables. Oui. En termes de digitalisation,
Et tout ce qu'on sait. Donc toutes ces thématiques-là existent toujours, et sauf que vous pouvez accéder à ces thématiques beaucoup moins cher qu'avant.
Vous n'avez pas la crainte, Denis parlait tout à l'heure de l'explosion, par exemple, de la facture d'énergie pour certaines entreprises. Là, on parle de valeur moyenne. Alors oui, ce n'est pas des PME, mais il y en a. Oui, il y a des PME cotées.
J'ai la faiblesse de croire que les PME cotées sont, pour la plupart, beaucoup mieux gérées que les États ou pas mal de grandes boîtes, en fait, parce que, un, c'est leur argent, et deux, ils ont une anticipation, une capacité et une résilience qui est extraordinaire. On l'a vu depuis des années. Nous, c'est des managements qu'on connaît depuis très longtemps. Leur capacité à anticiper est fondamentale. Et après, nous, par exemple, on est actionnaire de SPI, qui est une boîte d'ingénierie. SPI, le coût énergétique chez SPI, c'est rien, ou pratiquement rien. Après, c'est le travail du gérant de réfléchir où est-ce qu'on doit se positionner pour se couvrir de ces risques-là. Mais au global, et je termine là-dessus, l'endettement des sociétés cotées est faible, voire très faible. Le sujet, ce n'est pas eux, c'est leurs fournisseurs ou les fournisseurs de leurs fournisseurs.
Louis, est-ce qu'il faut revenir vers les valeurs moyennes?
pour moi, enfin, je suis aligné avec ce que dit Sébastien, mais je vous aurais dit la même chose il y a trois mois. Le problème auquel on fait face pour des gens comme Sébastien ou moi aujourd'hui, c'est que le stock picking est quasi inopérant depuis plus d'un an, si ce n'est deux ans, et on pourrait peut-être même remonter. Il y a trois déterminants, je le dis souvent ici, des prix des actions. Il y a la liquidité, la psychologie collective et enfin la microéconomie. Aujourd'hui, la microéconomie est totalement ineffective. Quand vous regardez que LVMH a annoncé un chiffre d'affaires spectaculaire, 19% de croissance, alors que le marché attendait 13%, ça a monté 2% ce jour-là, ça les a reperdus le lendemain. Donc en fait, le marché, et puis on l'a vu sur énormément d'entreprises, donc
Non, moi, j'ai pas d'idée, je suis pas analyste.
Non, mais du coup, mais
la valeur, elle n'était pas donnée. Je veux dire, elle est quasiment proche de ses records. Donc c'est pas non plus.
LVMH n'est pas proche de ses records, d'une part, et d'autre part, si le marché attend 13 et la price à un moment donné avec 13% de croissance et qu'elle fait 19% de croissance,
ça devrait.
Normalement, dans un mécanisme de marché qui fonctionne, ça devrait monter.
Je comprends.
Maintenant, effectivement, principe évidemment à rappeler, qu'a rappelé Sébastien, c'est qu'on investit en bourse que l'argent dont on n'a pas besoin, même
sur quelle durée d'ailleurs. C'est intéressant parce que tout divers, on dit 10 ans, 5
moi
ans,
j'ai,
3
non,
ans.
Moi j'ai tendance à penser qu'à partir du moment où on a un projet pour de l'argent à 3 ans, il ne doit plus être en bourse.
D'accord.
Alors sauf si on a un point bas ou je ne sais quoi, mais parce que okay. Même si
donc
vous dites 10 ans, même si vous dites 10 ans et que votre échéance de 10 ans c'est septembre 2008, vous êtes cramé. Donc il ne le faut pas. Donc pour investir dans... Oui, évidemment, il y a des occasions d'investissement exceptionnelles.
Vous aussi, vous dites
que
c'est des soldes.
Non, mais vous regardez une boîte comme Trigano, son carnet de commandes... Et
ah non, lui enlevez pas. Lui enlevez pas, c'est sa valeur.
Ah, je savais pas.
Vous êtes parlé avant. Enfin, quel est le mot de la semaine? Quel est le mot de la semaine pour vous, Denis Ferrand? Très bon, ça.
Pour moi, c'est le mot radiation. Ouais. Ça n'a rien à voir avec du nucléaire, mais c'est le mot... parce qu'on a eu dans la semaine un chiffre sur les défaillances d'entreprises, et je crois qu'il y a une très bonne newsletter aussi qui parlait des défaillances d'entreprises. Et c'est pas pour faire du faillotage, mais c'est pas les défaillances qu'il faut regarder.
Ah,
parce que les défaillances, en fait, elles sont encore 20% dessous. Ok, elles remontent. Elles sont encore 20% dessous du niveau de 2019. En revanche, il y a un mouvement à bas bruit qui est en train de se faire dans le système productif. Ce sont les radiations d'entreprises. En gros...
Liquidations.
Des liquidations, mais c'est des liquidations d'entreprises qui ne vont pas au tribunal de commerce parce qu'elles n'ont pas de passifs, elles n'ont pas de dettes à apurer. C'est simplement des gens qui
abandonnent.
Qui arrêtent. Et là, les radiations, on est 37% dessus du niveau de 2019.
Ça, c'est des gens qui rendent les clés.
Je rends les clés du camion et c'est terminé. Et ça, en termes de profondeur du système productif, je pense que c'est un point d'alerte.
Louis, le mot de la semaine?
Moi, c'est dogmatisme. Okay. Sans faire référence au dogmatisme d'Angela Merkel, je dirais que c'est dogmatisme parce qu'aujourd'hui, cette politique de hausse des taux m'inquiète un petit peu compte tenu du stock de dette, d'une part. C'est dogmatisme parce qu'on le voit dans notre métier où il y a des avalanches de réglementations qui nous tombent dessus entre l'ESG, les PRI, la taxonomie. Je ne vais même pas vous expliquer ce que c'est. Mais on nous explique aujourd'hui qu'il ne faut plus investir pour trouver de la performance dans une entreprise, mais investir pour trouver de la beauté dans l'entreprise. Donc...
C'est pas mal aussi. Patrice ?
Le problème pour moi est ancrage.
Okay.
Et là, c'est le manque d'ancrage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas stabiliser un cycle tant qu'on n'a pas effectivement un ancrage sur l'inflation totale, l'inflation cœur, l'ancrage sur le taux terminal des banques centrales et l'ancrage sur les taux de progression attendus l'an prochain pour les bénéfices. Et ce défaut d'ancrage...
C'est le monde d'après dont on parlait tout à l'heure.
C'est le monde d'après. Et là, on est dans le monde du passé. Donc ce défaut d'ancrage nous amène sur récession et instabilité financière comme étant le fond de tableau. Et j'aimerais passer à un ancrage qui nous amène sur un nouveau cycle et sur une reprise du risque, à la fois dans les portefeuilles comme du côté des chefs d'entreprise.
On y travaille, c'est pour ça qu'on est là. On essaye de décrypter tout ça. Sébastien ?
Résilience. Parce qu'il en faut dans la période actuelle, il faut faire de la résilience face à Poutine, face au dogmatisme, qui est, je suis d'accord, un vrai sujet, face à la CGT.
Vous avez préparé l'émission ensemble ?
Non, face à la CGT, d'une certaine façon, les ennemis de l'intérieur qu'on est en train de voir aujourd'hui. Résilience face à l'Assemblée nationale avec une opposition qui est d'une connerie sans nom, avec absolument pas à la hauteur des débats. Donc c'est résilience en général. Et moi, je fais confiance, et c'est pour ça que je fais ce métier, dans la capacité d'anticipation et de réaction des entrepreneurs. Et je pense qu'on s'en sortira une fois de plus grâce à la résilience et à la capacité d'innovation des entrepreneurs sur tous les sujets qui nous inquiètent, que ce soit l'énergie, la transition énergétique. C'est par l'entrepreneuriat qu'on s'en sortira.
Voilà, ça c'est dit, au moins ça c'est fait, on est content. Si on nous coupe l'antenne ce week-end, on saura de la faute de qui c'est. Allez, on fait le top 3 pour les gérants super. Alors là, c'est de la résilience à fond. Romain Burnand, moins 11,2%. Frédéric Rosier, moins 12,2%. Pierre Chang, moins 12,5%. Ça fait quand même très bizarre, je vous l'avoue, de présenter un top 3 avec des performances les meilleures qui sont toutes inférieures à 10%. C'est étrange, mais bon, quand on voit le niveau des indices, c'est totalement compréhensible. Louis, je voudrais qu'on reprenne votre portefeuille. Alors, j'ai appris par la bande, par la rumeur, que vous aviez votre propre fonds sur le cloud, mais que si vous alliez en ouvrir un autre avec une société de gestion, c'est ça, vous conseillez un autre.
Voilà, c'est Montpensier qui lance un fonds qui s'appelle M Cloud Leaders.
Montpensier, c'est la maison de notre ami Wilfried.
Ah, exactement. Très bonne maison, galant, avec des gens de très grande qualité. Donc, ils ont trouvé la thématique extrêmement intéressante. Ils n'avaient pas les compétences en interne. Ils ont voulu un fonds qui est plus vers les entreprises plus leaders, avec, on va dire, en moyenne des marges de 20%, là où notre fonds est plus sur les boîtes d'hypercroissance avec des marges en moyenne de 10%. Et je pense que c'est quelque chose qui va être très intéressant à piloter.
Vous ne voulez pas faire un fonds cloud avec...
Non, mais moi, je suis client de son fonds. Hein.
Ah, d'accord. Donc, moi, je pense que... Ah, bah, ils sont copains, eux. Alors, on y va. Alors, Louis, je vous donne votre portefeuille. Vous me dites ce qu'on fait. On a du CrowdStrike.
Alors, on va garder...
Alors, je dis quand même tout pour les gens qui suivent. Hein. Datadog, on a du Snowflake, on a du Bill.com, on a du Cloudflare, on a du HubSpot. Donc, on garde tout, si j'ai bien entendu.
Alors, on garde tout et il vous est paru assez évident que ça a été très difficile pour ces entreprises cette année. Moi, je pense que le marché a corrigé des excès passés avec un excès additionnel. Je prédis un gros rebond de ces valeurs-là dans les 12-18 mois. Parce qu'elles sont, très significativement... Vous voyez, quand je parlais de poche, alors la résilience est liée puisque ce sont des entreprises qui accompagnent la digitalisation des entreprises et elles ont des croissances de chiffre d'affaires et de profit.
Faire un spectacle à deux, là.
Oui, les frères Zapata. des croissances de profit. Je sais que vous aimez les profits qui sont significatifs. J'adore ça. Donc, je pense qu'un gros rebond... Alors, c'est très monomaniaque puisque c'est que des entreprises du cloud. Cette fois-ci, on va rajouter Stellantis parce que son prix est tellement choquant. Donc, ça cote 40 milliards, il y a 20 milliards de cash. Donc la moitié de cash net. Ça vaut une fois le résultat d'exploitation. Une fois le résultat d'exploitation. C'est rien. 2,6 fois le résultat net. Et Carlos Tavares, qui est assurément le meilleur manager de l'automobile mondiale, et pourtant, moi, j'aime pas acheter des constructeurs automobiles, mais là, j'achète, a prédit qu'à horizon 2030, Stellantis ferait 20 milliards de chiffre d'affaires dans le logiciel récurrent. Donc il est en train de transformer ce qui est arrivé au téléphone en bakélite, qui est devenu un micro-ordinateur dans lequel on gère toute notre vie. Il va transformer quatre roues, un moteur et une carrosserie en un support d'applicatif et de logiciel.
Sébastien Lalvé, il faudrait à peu près toutes les missions pour lire votre portefeuille, puisqu'il y a 272 lignes. Alors, je vais aller très vite. Vous me dites si vous vendez quelque chose. Si vous continuez à en rajouter sans en enlever, je vous invite plus. Soitec, Selectis, CGG, Calrev, Groupe Gorgé, Equasens, Reworld Media, Technip Énergie, Median Technologies, SMCP, Believe, Lumibird, Xilam, Ubisoft, Valourec, Wadian, Séché Environnement, Nexans, Soprasteria. On me dit pas
c'est un bon fond, ça, je pense.
vous savez pas qui a donné cette liste, mais vous l'avez trouvé génial.
C'est pas mal. Hein. C'est un bon fond pour 2023, ça.
Bon, alors, Louis, il vous a cassé votre effet quand vous aviez répété avant. Il avait oublié qu'il devait pas le dire. Alors, votre recommandation?
Effectivement, on avait Trigano, on l'a enlevé. Et là, on le remet.
D'accord. Alors, expliquez-nous ça.
Trigano, c'est des camping-cars. C'est une société gérée par François Feuillet, repris à la barre du tribunal à l'époque. C'est une société extraordinaire, leader européen des camping-cars. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est 400 millions de cash, une valeur de plus de 3 millions, entre 3 milliards et 3 milliards et demi de chiffre d'affaires l'année prochaine. Ça vaut 5 fois les résultats. 5-6 fois les résultats, ça vaut moins de 4 fois les bits. C'est une tendance structurelle, donc c'est l'autonomie avec le camping-car une fois qu'on aura à nouveau de l'essence. Ça correspond à un vieillissement de la population. Donc c'est tendance structurelle.
Un de ces challengers d'ailleurs, Univers, nous disait qu'il y avait même des gens qui ne pouvaient pas accéder à une résidence secondaire à cause de la hausse des taux et qui se reportaient sur...
Comica, bien sûr. Donc c'est une tendance séculaire, et là vous pouvez acheter une tendance séculaire avec 450 millions de cash dans les caisses. à 5 fois les résultats. Donc, il ne faut pas hésiter.
Une question pour les deux, mais vraiment une seconde. Stellantis, vous avez raison, mais hier, c'était aussi très bas, et avant-hier, c'était très bas. C'est-à-dire, à quel moment il y a le catalyseur d'accélération en une seconde? C'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, je suis d'accord avec vous. Moi aussi, je sors de là, je me dis, mais chaque semaine, ou presque toutes les deux semaines, on m'en parle, et je me dis, chaque semaine, il faut l'acheter. Et puis, je me dis, à quel moment il y aura le catalyseur, juste rapide?
Le jour où le marché sera moins sur la psychologie collective et la liquidité reviendra sur la microéconomie, ce jour-là viendra, mais je peux pas vous dire. C'est vraiment ça qui va être le driver. À ce moment-là, les gens, quand les résultats vont monter,
parce que ça paraît tellement évident, vous comprenez, ça paraît tellement évident qu'on se dit, mais pourquoi tout le monde l'achète pas?
Parce que le moteur des marchés aujourd'hui n'est pas sur les fondamentaux.
Parce que nous, notre seule sécurité, c'est de dire, ça vaut 100. Peut-être que ça vaudra 70 demain, mais on est certain que, quelles que soient les conditions, on reviendra à 100, voire plus, après-demain.
Ça sera le mot de la fin. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous annoncer qu'elle sera exceptionnelle. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous voir ou revoir en replay podcast sur RMC, BFM Play et sur toutes les plateformes de podcast. Et on a des super scores, alors continuez à nous regarder.